C'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un Séquence Parc un petit peu particulier puisque nous ne sommes pas en studio, mais je me trouve donc sur au pont de Montvert, précisément sur la Champ du Pont, avec le groupe d'études des tourbières, donc une trentaine de spécialistes de divers horizons qui sont donc dans les Cévennes depuis mercredi pour étudier les tourbières. Et donc, je suis allée à leur rencontre ce
matin.
Alors,
Geneviève Magnon, je suis présidente du groupe d'études des tourbières, bénévole et par ailleurs, je suis gestionnaire de tourbières dans le massif du Jura, dans un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau.
Et moi, c'est Grégory Bernard, je suis chargé de mission à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels, et plus spécifiquement au pôle relais tourbières. Et puis aujourd'hui, je suis également secrétaire du JET, ce qui m'amène ici.
Donc, le groupe d'études des tourbières donc, organise chaque année des séminaires pour aller voir les tourbières en France. Et donc, cette année, ce sont les Cévennes, enfin le Parc National des Cévennes, qui accueille ce séminaire. Alors, ça, c'est quoi l'objectif ?
Alors, le GED, c'est une association de bénévoles qui réunit au départ des scientifiques, créés par des scientifiques il y a une quarantaine d'années. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gestionnaires de sites tourbeux, des parcs nationaux, parcs naturels, des conservatoires, qui a vocation à étudier, préserver, faire la promotion de la conservation des tourbières en France. On a quelques Suisses même dans notre association. Donc on fait chaque année une session de terrain sur un site tourbeux en France, et tous les deux ans, un colloque. Donc là, c'était l'année dernière, le colloque, c'était dans les Hauts-de-France. On a visité les tourbières des Hauts-de-France et cette année, on a eu une proposition d'un de nos membres du GED, Pierre Goubet, qui travaille pour le Parc National des Cévennes, de venir visiter les dernières découvertes sur les études et les fonctionnements de ces tourbières très originales.
Vous êtes là depuis mercredi, donc il y a six tourbières au programme. Donc vous êtes allé déjà sur les Goualles. Là, on est sur le Mont Lozère. Enfin, qu'est-ce que vous retenez de vos visites ?
Déjà, on est sur la région de France la plus au sud qu'on ait jamais visitée. Enfin, peut-être les très anciens étaient venus. Donc on est quand même sur une région où la sensibilité à l'eau en région proche de la Méditerranée est importante, et on a vu des sites où il y a quand même une résistance, où il y a de la tourbe avec de l'eau. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des sites qui sont intéressants et que du coup, ces tourbières qui sont menacées par le changement climatique ici, il va falloir faire très attention à la gestion qui va être portée sur ce territoire-là et les préserver, bien les connaître pour préserver toute la ressource en eau de ce territoire. Ça, c'est capital. Si on veut que ça fonctionne encore le plus longtemps possible. Le changement climatique va faire du travail, on ne sait pas lequel, mais il y a une très forte sensibilité, mais on voit qu'il y a un gros potentiel et qu'il y a des sites qui sont encore très bien alimentés.
Alors moi, je suis plus sur la thématique du carbone. Voilà, c'est un peu, ça fait 3 ans que je travaille là-dessus. C'est un peu ce que vient de dire Geneviève là, sur ces tourbières. Il y a un gros enjeu, ces tourbières, c'est des énormes stocks de carbone. Et donc, justement, dans ces... À ces latitudes, au sud, le réchauffement climatique pourrait donc assécher ces tourbières, certaines, et remobiliser finalement ce stock de carbone qui est stocké pour le réémettre en CO2 et donc encore aggraver ces phénomènes de changement climatique. Donc c'est vrai qu'il y a, d'une manière générale, un enjeu sur le stock de carbone des tourbières et qui est encore peut-être plus important justement dans ces régions très au sud. Et donc c'est intéressant de voir justement en fonction des différents fonctionnements hydrologiques quelle est la sensibilité de ces sites aux changements globaux en cours et à venir.
Et au-delà du carbone, quelles sont les différentes fonctions des tourbières ? Elles ont plusieurs rôles.
Oui, elles ont plusieurs rôles. Alors au-delà du carbone, il y a beaucoup de services écosystémiques qui sont liés à l'eau. Alors on parle en général de protection contre les inondations, de soutien des débits d'étiage, de capacité à épurer l'eau également. Alors effectivement, c'est des services qui sont rendus peut-être pas par toutes les tourbières, je ne vais pas rentrer dans tout un tas de détails, mais en fonction du type de tourbière, elles ne vont pas avoir non plus les mêmes fonctions dans ce grand cycle de l'eau. Donc elles remplissent ces fonctions-là, et puis surtout, c'est des supports également de biodiversité, dont on parle peut-être un peu moins en ce moment, parce qu'on est très très focalisé sur le carbone des tourbières. Mais ce qui est bien avec ces milieux, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, d'antagonisme entre préserver le carbone, préserver la biodiversité et préserver les services liés à l'eau. Quand elles sont dégradées, on perd tout. Quand on les restaure, on peut quasiment tout regagner ou au moins limiter la casse. Donc c'est un des enjeux de restauration des tourbières qui permet de cocher tous ces services.
Donc on l'a dit, ces tourbières, comment vous procédez sur le terrain pour chaque journée? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce qu'il y a des restitutions? Quel est le but?
Alors le monde de l'étude des tourbières, il fait appel à plusieurs types de compétences. Donc on a besoin des géologues, des géomorphologues, des hydrologues, des botanistes, des entomologistes. Et du coup, l'intérêt du GET, c'est d'avoir dans tout ce groupe ces différentes compétences qui sont réunies. On a un bureau d'études qui a apporté au Parc National beaucoup de connaissances. Donc on s'appuie sur le travail qui a été fait. On va chacun visiter la tourbière, se faire son point de vue, du point de vue de ses connaissances. Et ensuite, on se réunit à la fin de la visite et on fait un compte-rendu en apportant chaque socle de connaissances sur la géologie, la géomorphologie. Et on émet des hypothèses sur le fonctionnement, comment ça peut fonctionner, comment c'est alimenté, comment ça va se conserver. Parce que la question du gestionnaire qui est le parc national, c'est maintenant que je sais comment ça fonctionne, comment je fais pour conserver ce système-là? Parce qu'il faut absolument préserver ces espaces. Alors ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes pastoraux dans ces tourbières. Alors, les tourbières apportent de l'eau, de l'humidité et du coup des herbages sur des systèmes qui sont de plus en plus secs l'été, on l'imagine, dans ces systèmes pastoraux. Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il va être vraiment important de travailler avec le monde agricole. On voit que le pâturage, il peut être possible et il va permettre d'entretenir certaines tourbières, certaines formes de tourbières, mais par contre il y en a certaines qui sont hypersensibles au pâturage, où il va plutôt falloir les préserver, mais c'est des petits espaces. Et là il faut ouvrir une forme de dialogue, arriver à travailler ensemble, parce que les agriculteurs ont tout intérêt à préserver ces zones humides, parce que c'est de l'eau, et l'eau il y en aura besoin, et des herbages il va y en avoir besoin. Et si on ne prend pas soin de ces zones humides, il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus d'herbage. Donc c'est gagnant-gagnant, et pour les tourbières, et pour les systèmes pastoraux. Il n'y a pas tant d'eau que ça dans les massifs. Il peut pleuvoir, mais c'est des grosses quantités. Et après, il ne pleut plus dans ces massifs et c'est des grosses sécheresses. Et ces zones-là, elles apportent de l'eau en permanence. Donc, tout le monde a y gagné à préserver ces espaces-là. C'est le travail que doit faire aussi le parc, de travailler avec les gestionnaires de terrain, que peuvent être les agriculteurs ou d'autres types de propriétaires. Vraiment de préserver, parce que tout le monde sera gagnant à la fin.
Et comme vous le disiez, c'est les plus au sud, donc c'est les plus exposées au changement climatique. Elles seront les premières à être très fragilisées, voire disparaître.
Clairement, l'augmentation des températures va générer encore plus d'évaporation. Alors, ce qu'on ne sait pas trop, c'est sur le régime des pluies, mais on voit que ces dernières années, c'est de plus en plus marqué, avec des périodes de sécheresse plus longues. Donc c'est clair que ça va altérer de plus en plus l'approvisionnement en eau. Et du coup, tout ce qui est zone humide va être impacté. Donc tout ce qui fonctionne bien, la priorité, c'est de préserver ça tout de suite. Voilà, tout ce qui commence à dysfonctionner, s'il y a des petits efforts de travaux à faire, pourquoi pas les faire? Mais déjà, préserver ce qu'on a, c'est capital, c'est des petits trésors. Quand vous avez ça sur un territoire, vraiment, il faut le garder précieusement.
Par rapport au carbone, vous travaillez sur le carbone, est-ce qu'on a des bonnes connaissances? J'ai l'impression qu'on est un peu en retrait sur cette question du carbone.
Alors sur le carbone des tourbières, la connaissance a beaucoup augmenté récemment, notamment grâce à une thèse qui a été réalisée à l'université de Franche-Comté, où la thésarde a calculé finalement le stock de carbone de toutes les tourbières de France. Et elle a également été sur le terrain, on a fait pas mal de relevés, des mesures de carbone en laboratoire. Et finalement, tout ça a confirmé que les tourbières de France sont comme toutes les autres tourbières. On retrouve les chiffres qu'on pouvait trouver dans la littérature. Des chiffres qui nous disent que les tourbières sont les écosystèmes les plus denses en carbone.
Vous avez le chiffre ?
Si vous prenez un hectare de tourbière sur un sol d'un mètre d'épaisseur, vous avez, on va dire, entre 700 et 500 tonnes de carbone par hectare et par mètre. C'est 10 fois plus qu'une forêt, en gros.
C'est ce que j'allais dire par rapport à la forêt, parce que jusqu'à présent, quand on pense à stockage de carbone, ben, les tourbières, ça ne vient pas en premier. Enfin, non. En tout cas, on pense tout de suite à la forêt.
Ça ne vient pas en premier parce que c'est deux mécanismes différents. Finalement, les tourbières ont des stocks qui sont accumulés et celles qui sont en bon état continuent à accumuler du carbone, mais d'une façon très, très lente. Alors qu'un arbre qui pousse va accumuler du carbone bien plus rapidement que la tourbe ne le capte. Après, il faut aussi se placer, réfléchir sur des échelles de temps peut-être un peu plus longues et se dire que le... Alors, j'ai rien contre les forêts, loin de moi l'idée d'opposer les milieux, mais le carbone qui est stocké dans l'arbre, il va y rester un certain temps, même si on fait un produit bois, voilà, on est sur du stockage pendant quelques centaines d'années peut-être. Le carbone qui est dans la tourbe, il est stocké pour des milliers d'années si la tourbière fonctionne. Ça ne bouge pas, on retrouve du carbone qui a 7000 ans et qui a été prélevé dans l'atmosphère il y a 7000 ans. Voilà, donc c'est complémentaire. Et le gros enjeu, vraiment, je le redis là sur les tourbières, c'est d'éviter que les stocks qui sont accumulés et qui sont très très importants ne soient réémis. Parce que la conséquence d'avoir cette densité de carbone, c'est que quand vous dégradez une toute petite surface de tourbière, vous réémettez énormément de CO2.
Donc ça peut être dégradé, peut-être pas par le pâturage, mais le drainage ?
C'est l'assèchement. Les questions du carbone dans les tourbières sont liées au niveau d'humidité, à la saturation en eau. Si la tourbe est saturée en eau, elle ne relargue pas son carbone. Au mieux, elle l'accumule. Et dès qu'on assèche, en fait, vous avez des processus de minéralisation qui se remettent en route et le carbone est réémis sous forme de CO2.
Je voudrais vraiment saluer le travail du Parc National qui s'est saisi de cette question-là. Hein, parce que dans un parc, on a à gérer beaucoup d'écosystèmes différents. En plus, le Parc National des Cévennes, c'est un très grand territoire. Et peut-être que la problématique zone humide n'était peut-être pas celle qui arrivait en premier. Et là, le fait qu'ils aient engagé cette réflexion depuis 3 ans, là, à lancer des études de connaissances et de fonctionnement, ça montre que la question de l'eau, elle devient vraiment centrale, bon, comme sur beaucoup de territoires en France. Mais encore une fois, sur ce territoire presque méditerranéen, moi, je salue le travail du parc de s'être engagé là-dedans et puis maintenant de considérer les tourbières vraiment comme des écosystèmes à enjeu aussi pour le parc. Donc je les encourage à poursuivre et le groupe d'études des tourbières sera vraiment ravi de voir ce qui va se passer à l'avenir dans leur travail de conservation. Et prêt à les accompagner s'il faut.
Merci. Merci beaucoup.
Donc je m'appelle Pierre Goubet, je suis docteur en écologie et spécialisé dans l'analyse du fonctionnement des tourbières et puis des milieux humides en général.
Et vous connaissez bien les tourbières hein, qui sont visitées depuis mercredi, parce que je crois que vous les avez toutes étudiées.
Alors je les ai quasiment toutes étudiées suite à la demande du Parc National des Cévennes qui souhaitait en fait mieux comprendre le fonctionnement de ces écosystèmes qui sont très importants pour différentes choses, pour la biodiversité, pour le carbone aussi, puisque les tourbières vont conserver beaucoup de carbone, pour l'eau, le cycle de l'eau, et puis aussi parce qu'elles constituent des éléments patrimoniaux et scientifiques vraiment reconnus en tant que tels, et notamment au niveau du territoire du parc national.
Donc comment et quand les avez-vous étudiés ?
Il y a plusieurs phases en fait, et puis j'étais pas forcément dans le territoire du parc, mais je connais bien les tourbières aussi de l'Aubrac, de la Margerie, du Somail, enfin je connais les tourbières du sud du Massif Central. Et là je suis sur ces tourbières spécifiquement à la demande du parc ou parfois à la demande de l'Office National des Forêts aussi, suivant qui gère en fait ces milieux-là. Je suis depuis une dizaine d'années, je travaille sur ces milieux.
Et qu'est-ce qu'on peut dire donc du fonctionnement des tourbières que vous avez étudiées ? Elles n'ont pas toutes le même fonctionnement ?
Alors non, il y a une diversité hein, de tourbières. Il y a des tourbières qui vont dépendre par exemple des eaux de pluie. C'est le seul apport d'eau et de nutriments en fait qui vont faire fonctionner ces milieux-là. Il y a des tourbières qui vont plutôt dépendre des eaux de nappe hydrogéologiques, hein, les nappes de roches, ce qu'on appelle nous les émergences, qui vont concerner plutôt des sources en fait de systèmes qu'on appelle aquifère. Et puis il y a également les tourbières lacustres, ou en tout cas des tourbières qui vont se réaliser dans des bas-fonds topographiques et qui vont encore avoir une autre logique avec d'autres types d'apports d'eau et d'autres problématiques de conservation aussi. Hein. Puisque, encore une fois, la conservation des services que nous rendent ces tourbières-là, que ce soit au niveau de la biodiversité, de l'eau ou du carbone, ça va dépendre de leur modalité fonctionnelle et de l'eau qu'elles vont utiliser pour conserver la matière organique.
Et selon qu'on se trouve sur du granit ou du calcaire, comme à la Combe des Quatres par exemple, c'est pas non plus le même fonctionnement, il y a un rôle spécifique.
Alors oui, par exemple, il y a un rôle spécifique. Parfois, le fonctionnement hydrogéologique va être le même, mais comme les roches qui sont traversées par l'eau qui va alimenter ces tourbières-là ne sont pas les mêmes, on va avoir une physico-chimie différente qui vont permettre à d'autres plantes d'être présentes. Et donc, ça va pas faire varier en fait le fonctionnement dans sa globalité, mais ça va faire varier, on va dire, la composition des plantes, la composition floristique. Et donc la biodiversité locale. On va par exemple avoir des tourbières qui sont vraiment sur le granit, qui vont être acides par exemple, qui vont être représentées par des cortèges de plantes particuliers. Et puis ensuite, on va avoir des tourbières qu'on dit alcalines, donc qui ont traversé plutôt des calcaires par exemple, des dolomies, et qui vont en fait permettre l'expression de communautés de plantes qui sont vraiment spécialisées dans l'eau riche en calcaire. Et qui va donc faire varier toute cette biodiversité, qui va enrichir la biodiversité à l'échelle du parc, à l'échelle par exemple du Mont Lozère aussi, hein, puisque le Mont Lozère il est en partie granitique, mais il est aussi en partie calcaire quand on arrive sur par exemple du côté des Bondons ou du col de Montmirail.
Est-ce que les tourbières dans le parc ont quelque chose de caractéristiques spécifiques ?
Les tourbières du parc ont plusieurs caractéristiques spécifiques. Et au sein de l'ensemble des tourbières du parc, il y a encore des sous-caractéristiques spécifiques par rapport à leur localisation, à leur type d'eau, d'alimentation en eau, par rapport à leur histoire aussi. Parce que j'ai pas précisé pourquoi les tourbières sont si importantes, parce qu'elles ont conservé les archives historiques, hein, l'histoire de la région, hein, de l'homme dans la région, des agriculteurs, des mineurs aussi, depuis des milliers d'années. Donc chaque tourbière est un peu une bibliothèque, hein, qu'on n'a pas forcément encore ouverte, lue, mais c'est potentiellement des choses très intéressantes qui sont conservées au sein de ces tourbes. Les tourbières du parc, alors elles ont plusieurs caractéristiques qui rendent très intéressant, et elles ont aussi, par leur situation au sud-est du Massif central, en altitude, mais quand même très proche de la Méditerranée, elles vont aussi être uniques en France par cet aspect-là. Et elles vont être aussi ce qu'on va appeler des sentinelles par rapport au changement climatique. Elles sont susceptibles d'être relativement impactées rapidement par le changement climatique lié aux modifications des régimes des pluies, par exemple, qui alimentent les nappes, qui alimentent les tourbières. Donc elles ont cette particularité-là. C'est les gardiennes un peu sud-est des tourbières du Massif central et plus largement de ça, des tourbières de France aussi. Hein.
Il y a d'autres projets d'études, vous devez revenir, étudier, peut-être approfondir les études sur le fonctionnement. J'imagine qu'il y avait peut-être aussi d'autres choses à faire.
Alors, donc moi, je réponds aux sollicitations du parc. Je n'ai pas connaissance des projets du parc, en l'occurrence sur les tourbières. Mais moi, je serais tout à fait satisfait. Et c'est vraiment un plaisir intellectuel, hein, de venir découvrir ces milieux-là, qui ont un intérêt scientifique aussi. Hein. Parmi les tourbières qu'on a visitées jusqu'alors, il y a des choses exceptionnelles en France. Donc c'est toujours gratifiant, intéressant, qu'on nous sollicite pour venir travailler sur des éléments unique en France, exceptionnel, dont on ne comprend pas forcément le fonctionnement non plus, hein, puisque au bout d'un certain temps, au bout de 20 ans d'analyse, on commence à bien connaître les choses, mais il y a encore des belles surprises, et au sein du parc national, il y a des belles surprises. Moi, j'ai eu des belles surprises, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues auparavant, et du coup, on découvre quelque chose, quoi, des petits trésors, des...
C'est-à-dire ?
C'est par exemple au nord du Mont Lozère, on a un système tourbeux qui s'appelle le Peschio et qui est vraiment exceptionnel. J'en connais deux en France par exemple, et le deuxième je l'ai découvert cette année dans l'Aubrac. Mais on est sur... c'est difficile à expliquer de manière assez simple, mais disons qu'on a une forme de nappe d'eau qui est penchée, mais qui est aussi juste à la surface. Et ça c'est quand même assez exceptionnel.
Donc Yannick, le groupement d'études des tourbières est en visite dans les Cévennes, donc on a une trentaine de personnes ici. C'est intéressant.
C'est moi je dirais génial parce que on a tous les profils et toutes les compétences réunies en même temps avec des concurrents, hein, d'autres, parce qu'on a des bureaux d'études privés qui sont concurrents sur des travaux, on a des chercheurs qui sont pas d'accord, mais on a à peu près toutes les compétences qui peuvent apporter de la connaissance et de la compréhension, parce qu'on veut connaître, mais surtout pour comprendre comment ça marche et les préserver. Et là, ça fait un peu brainstorming de 30 spécialistes dans tous les domaines qui peuvent concerner le monde des tourbières, hein, parce que ça part de la botanique, phytosociologie, géomorphologie, géologie, hydrologie, hydrogéologie. Il nous manque la climatologie, mais on la connaît par ailleurs. Et on a de toutes les régions de France, même on a des Suisses, donc des profils qui travaillent sur des milieux très différents. On a aussi beaucoup de gestionnaires. Et ça fait tout le monde se balade dans nos tourbières, qu'on a notre connaissance, nous, sur lesquelles on a travaillé, parce que c'est des tourbières sur lesquelles on a des travaux en cours ou qui sont finis ou qu'on lance des projets. Et là, séance de brainstorming, tout le monde se balade, regarde et on fait des séances de qu'est-ce que vous avez vu, comment vous l'interprétez, comment vous le comprenez. C'est très très dense, du coup très très fatigant. Mais on va en tirer, ça on tire que du bénéfice, c'est que intéressant, il n'y a rien acheté.
Justement, c'est des tourbières qui ont été étudiées justement par Pierre Goubert, donc pourquoi le parc avait demandé à Pierre Goubert de les étudier? C'était quoi la question?
On était rentré avec Pierre Goubert sur une analyse purement très orientée hydrologie dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait sur l'entente sur l'eau, qui était un appel à projet de la région Occitanie et de l'agence de l'eau à Dour-Garonne sur études et travaux pour restaurer des milieux humide et tourbeux en état dégradé. Nous, on n'a pas vraiment d'état de tourbière à restaurer de manière forte. Avant, il faut qu'on comprenne comment elle marche et d'un point de vue hydrologique. Donc la vraie question, c'était le fonctionnement hydrologique. Et du coup, ça entraîne beaucoup de géologie, refaire toute la géologie des tourbières sur lesquelles on a travaillé, refaire beaucoup de botanisme, habitat, parce que c'est des indicateurs de l'hydrologie et tout l'aspect hydrologique où on est parti de rien pour comprendre leur fonctionnement. Et ensuite, on peut dire maintenant si elles fonctionnent correctement, si elles fonctionnent bien, c'est pas correctement, si elles fonctionnent bien ou pas bien, et si elles sont en fonctionnement moyen, où il y a des petites améliorations à faire. Globalement, on va rentrer sur la Champ du Pont, sur une phase de travaux d'ici peu de temps, pour faire un petit aménagement, mais qui est plus un arrangement de la gestion quotidienne qui demande aux agents du parc de venir dès qu'il y a une pluie pour essayer de reconnecter la partie amont de la piste forestière à la partie aval. Mais les deux tourbières fonctionnent, mais pour qu'elles fonctionnent, on est obligé de passer très régulièrement sur site. Donc on va faire les travaux pour que ce soit plus simple la connexion hydrologique. Et c'est la conclusion de l'étude avec Pierre Goubert sur l'hydrologie qui nous dit « elles fonctionnent bien indépendamment ». C'est mieux de les connecter, ça sera plus simple au niveau gestion, mais elles fonctionnent. Donc on n'a pas besoin de faire de l'intervention très lourde, c'est un peu de travaux pour améliorer le passage de l'eau autour de la piste. Et l'autre secteur avec lequel on était, le jet avant-hier qui était sur le mont Aigoual, la conclusion c'est qu'il ne faut rien faire. Ça va évoluer, ça a été assez marqué les interventions humaines. Mais finalement, on n'a pas de capacité de restauration. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir mettre plein d'argent pour essayer de faire quelque chose qui ne marchera, qui ne donnera pas forcément un résultat. Et ça, c'est vraiment le travail hydrologie, lien avec les habitats, qui nous permet d'arriver à ces conclusions, parce qu'on a des tourbières dans le Massif central. On est vraiment à la limite sud du Massif central pour les tourbières. Après, il n'y en a plus. Après, il faut aller dans les Pyrénées pour en retrouver. On compense le climat chaud par l'altitude. Nous, on n'a pas d'altitude, donc on est vraiment à la limite sud de répartition. Et c'est des tourbières assez atypiques par rapport à tous les membres du groupe d'études des tourbières. Ils sont sur plutôt de la plaine ou le Jura, où on imagine les grands sites. Nous, c'est des sites relativement petits, à part certaines, hein, où on va aller... un autre jour, on va sur le Pescio, qui est un grand site de tourbières, où aussi on travaille avec les syndicats de bassin versant là-dessus. Mais tous ces petits sites, ils ont des fonctionnements tous un peu. On a des modèles de compréhension, mais il faut vraiment être assez précis sur le terrain pour pouvoir se dire, ben là, non, il ne faut pas aller couper cet arbre-là, ou là, on peut les laisser pousser. Là, il faut mettre plus de moutons. Là, il faut mettre un peu plus de vaches, mais pas de ce côté-là, le côté à droite, mais pas à gauche. C'est de la gestion.
C'est des mesures de gestion.
Ils préconisent, mais parce que la plupart là, des intervenants, des présents du GET, ils travaillent sur des petits sites. Ils ont peut-être des immenses tourbières, mais ils n'en ont qu'une. Donc eux, ils peuvent se permettre de faire de la gestion mensuelle avec du pâturage, par exemple. Ils mettent des troupeaux, ils délèguent la gestion pastorale à des agriculteurs. Mais tous les mois, ils viennent voir en disant, bah non, là, le troupeau, il faut le déplacer, il faut le mettre ailleurs, il faut mettre moins de têtes. Nous, avec l'ensemble qu'on a, on n'a pas la capacité humaine de travailler à cette échelle-là temporelle. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions.
Merci Yannick.
De rien, avec plaisir.
C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Séquence Parc.
C'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi, à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.